Bonsoir, nous sommes donc à nouveau réunis au club de l'Opale Noire où nous venons de faire une partie de Empire Galactique. Et donc on a pensé enregistrer un petit débriefing sur ce jeu. Donc c'est un jeu auquel on a joué déjà un certain nombre de parties. Je pense qu'on est à la 8e ou 9e partie ici. Les premières parties étaient en fait basées sur un scénario officiel qui s'appelait Le Dernier des Kandars, et qui a donné lieu à une suite qui a été rédigée par le maître de jeu. Ensuite, on est parti sur une campagne ouverte avec une recherche de planètes adaptées à une race extraterrestre qui doit s'établir dans un secteur galactique. Et donc les héros sont tout à fait libres de se déplacer dans ce secteur et d'explorer les planètes dans l'ordre qu'ils veulent. Donc, autour de la table aujourd'hui, il y a donc Nathan qui joue Luc Van Crane. Bonjour Nathan.
Bonjour.
Alors, il y a Théo qui joue Jérémia. Donc, Jérémia est un prêtre psionique.
Jérémia tip-top.
Voilà. Laurence joue Eve Sky. Elle joue la techno du groupe.
Oui, bonjour.
Et Thibaut joue Gemma Flyers, la marchande.
Bonjour.
Donc il manque Daniel qui est parti un petit peu plus tôt et qui joue Jefferson, un autre soldat. Donc Luc Van Crane étant le deuxième soldat du coup. Ok, donc je propose de commencer par parler un petit peu des personnages peut-être, de vos personnages. De comment est-ce que vous avez vécu peut-être la création de personnages? Ça a été un moment tout au début assez rigolo. Parce que le premier personnage de Thibaut est mort-né, hein, puisque dans ce système, on peut mourir avant même de commencer sa première aventure, simplement en ayant de mauvais jets de dés pendant sa création de personnage et pendant le parcours professionnel de son personnage. Donc, pour les maîtres de jeu, je maîtrise la partie, la première édition d'Empire Galactique. Donc, c'est une édition où on crée un personnage avec un choix de carrière et différentes périodes, donc de 4 ans, qui peuvent être suivies pour développer la carrière. Donc,
des cycles,
voilà. Merci Théo. Voilà. Donc différents cycles de 4 ans qui permettent d'avancer dans la carrière. Donc les personnages commencent à 18 ans et chaque cycle de 4 ans leur apporte des compétences supplémentaires. Ici, on a choisi que les personnages commenceraient leur vie professionnelle, enfin leur vie aventureuse pour être précis, à 30 ans. Donc, ils ont tous connu 3 cycles de carrière. Alors, qui veut commencer à parler de son personnage? Ne levez pas tous la main en même temps. D'accord? Laurence?
Evsky a d'énormes compétences en électronique en mécanique, donc ce qu'elle aime, c'est construire des prothèses, adapter des appareils.
Voilà, donc c'est l'ingénieur du groupe. Voilà. C'est également celle, je pense, qui a un des plus hauts scores en intelligence,
oui.
Et ce qui lui permet de réussir pas mal de choses dans ce domaine-là.
Et j'ai pas fait attention, mais elle a pas mal en habilité aussi. J'utilise jamais.
Voilà, il faudra remédier à cela.
Donc, développer des compétences.
Hein. Voilà. Théo, peut-être ou...
Allez, moi, c'est bon.
Ah, Nathan va commencer. Allez, vas-y, Nathan.
Alors, mon personnage s'appelle Luc Van Crane. Il a été à l'école militaire dès ses 18 ans. Pendant jusqu'à ses 30 ans, il a perdu son bras, justement, dans ses exercices militaires. On l'a remplacé par une prothèse. Et il a reçu une formation en commandement, en savoir se battre au contact également. Il s'y connaît un peu en mécanique aussi. Et donc, en sortant de l'académie militaire, il s'est acheté un exosquelette pour ses aventures avec le groupe et une arme étourdisseur.
Voilà.
Donc, voilà.
C'est un personnage de soldat qui est plutôt spécialisé dans le combat de contact. Donc, on avait... imaginez que c'était plutôt un fusilier marin, donc quelqu'un qui se battait dans les coursives de vaisseaux plutôt que dans les zones ouvertes, quoi. Ok, donc Jérémia.
moi je suis un prêtre psy, donc vraiment basé sur la volonté et les pouvoirs télépathiques ou télékinétiques. Plutôt pas mauvais en intelligence. Après, le reste de mes compétences est plus en dessous de la moyenne, mais sinon, je me débrouille bien.
Ok. Et enfin, Gemma Flyer, la marchande.
Gemma, c'est, enfin, on l'appelle marchande, mais je l'imagine un peu plus comme un margoulin, comme on dit bien de chez nous, qui va plutôt essayer de tirer la couverture à elle, avoir son profit. Elle pense aux autres, mais voilà, elle va surtout utiliser ses charmes pour arriver à ses fins. Et son intelligence va lui permettre de pouvoir duper les autres en utilisant des déguisements, en essayant toujours de jouer sur certains aspects auxquels les autres ne pensent pas. Par contre, une fois qu'il s'agit de tenir une arme, ben c'est la bombe, quoi. Donc, elle ne sait pas faire grand-chose.
Voilà, c'est un bon résumé, effectivement. Ce n'est pas très utile en combat, mais d'un autre côté, il n'y a pas tellement de combats dans ce jeu. Enfin, dans la campagne, il n'y en a pas eu tellement.
Donc, ça pourrait venir.
Ça pourrait venir, effectivement. Donc, ensuite, je vais peut-être parler du système. Très bref, c'est un vieux système de jeu, ça se sent. Effectivement, les personnages sont optimisés pour savoir bien faire ce pourquoi ils sont créés. Donc un prêtre est bon en télépathie, ou en pouvoir psy, une techno est bonne en réparation de matériel, un soldat est bon en combat, et un marchand est bon en négociation. Les compétences qui ne sont pas développées ou les caractéristiques qui ne sont pas développées sont comparativement beaucoup plus mauvaises. Et ça veut dire que la plupart des jets qui sont lancés dans ce qui n'est pas leur spécialité vont être ratés. Techniquement, comment ça fonctionne ? C'est un truc un petit peu bizarre. Donc c'est une multiplication, c'est une table de multiplication. En réalité, on lance 2 dés à 6 faces que l'on additionne et on multiplie le résultat de ces 2 dés avec la caractéristique plus la compétence adéquate. Donc si par exemple une personne a 7 en force et 2 en combat corps à corps, eh bien on va multiplier ce 9 par le résultat de son jet de dés. Mettons que le résultat du jet de dés est 8, ben on va faire un 9 x 8, ça va donc faire un 72. 72 étant supérieur à 50, qui est le seuil qu'il faut réussir à battre pour la plupart des jets, eh bien, le jet va être réussi si on fait ce résultat-là. Bien, donc ça, c'est pour le système de jeu, le système de résolution de base. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Il est évidemment un petit peu daté, mais est-ce que pour vous, ça fonctionne ?
Pour moi, ça fonctionne. Enfin, ça reste assez simple, malgré la multiplication. Mais il y a une table pour ça. Ça aide. Pour ceux qui arrivent à lire des tables sur des feuilles de jeu, c'est des gens qui ne savent pas où ça se trouve. Du coup, c'est vrai. Et non, de ce côté-là, ça marche bien. Le problème, c'est l'hyperspécialisation. Et finalement, que l'ensemble des compétences ne représente pas non plus tout ce qu'un personnage sait faire. Donc pour des choses comme collaboratif ou des combats de masse, peut-être serait plus compliqué de gérer les règles avec ça. Après, on trouve toujours un moyen. Mais c'est vrai que les vieux systèmes avaient tendance à pas comptabiliser ce genre de choses, quoi. Même le système de dégâts un peu spécial.
Oui, le système de dégâts est très très spécial.
C'est assez étrange parce qu'avec un objet technologiquement très évolué, tu peux faire plus de dégâts qu'avec un objet qui a l'air clairement de faire plus de dommages.
Ouais, c'est le niveau technologique de l'arme qui compte, donc ça veut dire que théoriquement, avec un karatapoigne, c'est-à-dire un anneau qu'on met à sa main et qui va servir à amplifier le coup qu'on porte à quelqu'un, on va faire plus des dégâts qu'avec un bazooka qui est de niveau technologique 2 ou 3, enfin 3 ou 4. Donc voilà, on est bien d'accord que ça, c'est un peu spécial.
Voilà, mais une fois passé ça, ça se joue plutôt bien.
Thibaut ?
Moi, il y a quelque chose qui... c'est plutôt Théo qui l'avait relevé, c'est que une fois qu'on avance dans le jeu, comment expliquer ça ? La compétence de base, la force, l'habilité, l'intelligence peut être facilement obsolète si on arrive à mettre suffisamment de points dans une catégorie spéciale. Donc, admettons, j'ai 5 en force, je veux mettre 5 points en combat corps à corps, ben je passe à 10 sur ma compétence. Et ça coûte beaucoup moins cher de monter une compétence spécifique plutôt que sa compétence générale. Donc à partir d'un certain moment, quand on sera à haut niveau, ben les personnages pourront être complètement cheatés et le système de jeu, pour moi, va montrer ses limites.
Ça, c'est parce que Fabrice a adapté les règles de progression qui n'existaient presque pas dans le système de base.
Tout à fait.
Le système de base ne permettait pas de progresser ton personnage, ou peut-être une seule fois dans, peut-être dans,
en fait, dans, le système,
dans sa vie, et puis c'est tout, quoi.
Dans le système de base, dans le système de progression qui est prévu par les règles de base, en réalité, la progression se fait exactement de la même façon que ce que vous avez vécu pendant la création de vos personnages. C'est-à-dire que vous devez passer un an, vous lancez les dés pour vérifier que après cette année vous avez appris quelque chose en compétence. Donc évidemment c'est, enfin, c'est
embêtant,
c'est extrêmement limitatif, et très frustrant, et parce que la plupart des joueurs sont habitués à avoir un système de progression. Donc j'en ai réinventé un qui vous fait avancer, mais très lentement. Alors oui, c'est clair que on va pas pouvoir jouer. Enfin, au bout de 100 scénarios, vous serez effectivement totalement cheaté, comme tu dis. Mais j'ai pas de solution à ça. Hein.
Non, le souci qu'il y a aussi, si on respecte celui que le jeu impose, c'est qu'on ne choisit pas les compétences dans lesquelles on évolue. Et c'est ça qui est embêtant, je vais dire.
Non, tu choisis. Hein.
Pendant les années où on apprenait, on ne choisissait pas.
C'est la seule différence. Tu choisis, mais tu fais quand même un jet d'intelligence, enfin en fonction de la guilde dans laquelle tu apprends, de force, etc., pour apprendre la compétence. Donc, tu choisis, je pense que c'est la seule différence, mais malgré tout, c'est très limitatif, on est bien d'accord. Bon, moi, j'ai préféré mettre un système semi-moderne là-dessus. Maintenant, après, j'ai pas de solution à apporter à ça. J'y réfléchis encore régulièrement à qu'est-ce que je pourrais faire pour vous apporter un système de progression qui soit logique, qui soit cohérent. Et ce n'est pas facile. Nathan.
Ben, je ne saurais pas dire autant qu'eux, car c'est ma troisième campagne et que je débute aussi dans le jeu de rôle.
C'est vrai.
Mais l'univers me plaît également, c'est... Comme Théo dit, c'est assez simple quand on fait quelques scénarios. Et donc voilà, je me suis adapté, alors qu'au départ, j'avais quand même galéré un peu à savoir à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur l'univers, mais...
Oui, alors, c'est vrai que bon, il faut expliquer quelque chose, c'est que Nathan est arrivé... À un moment de la campagne, enfin, il est arrivé après 4 ou 5 scénarios, ce qui fait qu'il n'a pas connu tout le démarrage de cette campagne, et donc il n'a pas la progression et la compréhension du reste, enfin, comme le reste du groupe, on va dire, la compréhension de la campagne du reste du groupe. Donc, ça c'est clair. Laurent, tu peux nous parler du système? Est-ce que c'est un système que toi, tu comprends? Ou, enfin, tout à l'heure, j'ai eu l'impression que tu avais du mal... Alors que c'est quand même le 9e scénario, donc...
Oui, mais la vie est faite de telle sorte que pour le moment, j'ai beaucoup à penser, et d'une fois à l'autre, j'oublie.
Voilà.
Mais j'aime bien le système parce que je réussis quand même la plupart de mes jets de dés, alors qu'il y en a d'autres où j'en réussis aucun. Donc voilà, ça me plaît bien parce que je parviens à faire ce que j'ai envie de faire avec le personnage.
Ouais, c'est... De ce point de vue-là, c'est vrai qu'à partir du moment où on respecte le concept de son personnage, je trouve qu'on réussit quand même la plupart de ses jets, et ça, c'est plutôt positif. Ok. On va parler de l'univers. Alors, l'univers de jeu est assez particulier dans le cadre de la campagne ici, dans le sens où, finalement, c'est une espèce de pièce rapportée où je suis parti d'un scénario et tout le reste s'est développé à partir de là. Et je suis pas persuadé que tout ce que je fais est canon. Il y a peut-être des choses pour lesquelles je suis un petit peu contre l'univers officiel, entre guillemets. Mais c'est aussi parce que même le scénario de départ que j'ai choisi, qui est celui de Lucio Vital, et là, le dernier des Candards, je suis pas persuadé que Lucio Vital ait vraiment pris en compte l'univers qui avait été créé par le livre de base de François Nédélec pour créer sa première aventure. J'ai l'impression qu'on lui a demandé de faire un scénario de science-fiction. Il a écrit son scénario. Je suis pas sûr qu'il est allé jusqu'à... je suis même pas sûr que ce soit lui qui ait créé les caractéristiques techniques de ces PNJ, parce qu'il y a certaines choses qui semblent extrêmement bizarres dans le scénario qu'il a créé. Mais bon, ici, pour créer le secteur sans son, donc le secteur dans lequel vous évoluez, librement, je suis parti d'un autre jeu, donc c'est-à-dire j'ai utilisé les règles de création de secteur qui vient de Stars Without Numbers, qui est pas mal pour ça, parce qu'il permet de créer des planètes en quelques jets de dés, quelques minutes, et ça permet d'avoir quelque chose d'intéressant. Ok, est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus? Je sais pas si vous avez des...
Sur l'univers ou la partie qu'on joue, enfin, peu importe, des deux. Moi, je trouve ça chouette. C'est assez rare d'avoir un truc assez libre, en fait, finalement. Parce que l'univers permet d'être très vaste. Et ce côté science-fiction des vieilles années, à ses débuts, quand tu découvres quelque chose. Il y a un côté découverte et explorateur que t'as pas beaucoup sans aller dans le pulp. Parce que maintenant, souvent, quand tu fais des jeux de rôle un peu plus explorateurs, c'est plus aventurier, ce genre de choses. Donc ça laisse une grande liberté aux joueurs. Le fait que la règle soit simple permet aussi de garder ce côté-là. Et ça, je trouve ça chouette, parce que c'est assez rare qu'on ait des jeux comme ça. Après, ça, c'est limitation aussi, quoi. Et pour l'instant, non, je trouve ça assez sympa. Très, on va de l'avant, on avance. On découvre surtout. C'est un jeu finalement où on découvre toujours quelque chose et le personnage il se débrouille en bricolant des nouvelles solutions. Ça rappelle vraiment la littérature de science-fiction.
Je pense que c'est par hasard, hein, à mon avis, François Nédélec qui s'est basé. Le livre de base a été édité quand même chez. Il y a une préface de Gérard Klein. Hein. Donc, qui est quand même le directeur de collection de la collection Ailleurs et Demain. Donc, on est clairement dans une logique littéraire.
Ah, mais c'est bien représenté. C'est du, franchement, un jeu comme ça, moi, je trouve ça donc, chouette.
Ok. Qui veut prendre la parole sur l'univers?
Je n'ai rien à dire sur l'univers.
Non, on attend non plus, Lolo.
Moi, j'aime bien qu'il y ait des races extraterrestres. Voilà. Ouais. Je trouve ça
De ce point de vue-là, c'est un peu particulier dans le sens où, contrairement à Star Wars, on n'est pas dans l'avalanche de races extraterrestres. On est plutôt dans une optique qui n'est même pas une optique Star Trek, dans le sens où les humains sont finalement les conquérants principaux de l'espace et les races extraterrestres qu'ils retrouvent ont généralement au maximum atteint le niveau de voyage interplanétaire et pas interstellaire. Pardon. Donc ils ne voyagent pas d'une étoile à l'autre. Et c'est les humains qui leur apportent cette technologie-là. Et voilà. Bon, c'est un système humano-centré. Ça fait penser un petit peu à Fondation et de ce genre de choses. Moi, ça ne me dérange pas personnellement, mais bon. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'on... Vous voulez parler de la façon dont on joue ce jeu et des particularités de notre campagne. Je ne sais pas si c'est quelque chose... Enfin, je demande assez peu de jet de dés, dans le fond. Et c'est pour ça que je pense que le système ne nous pose pas trop de problèmes au final. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Non, c'est pas mal, parce que ça fait un point de vue d'où c'est joué. On reste dans du... comment dire ça, collaboratif, dans vraiment aller chercher ce qu'on a besoin de manière un peu assez roleplay, et on garde les GD quand il y a vraiment une difficulté. C'est pas une mauvaise chose de jouer comme ça, au point de vue de cette gestion-là. Moi, je trouve ça plutôt même bien. Ça permet quelque chose de fluide, en fait, finalement. Après, j'ai plus un... aussi pour l'instant avec l'attitude du groupe depuis ces trois derniers scénarios de ne rien faire à chaque problématique. En tant que joueur, ça me je trouve ça bizarre,
mais... Ouais, mais tu peux développer, justement, parce qu'effectivement
notre but c'est de découvrir une planète habitable dans plusieurs systèmes qui soient adaptés à une race extraterrestre qu'on a sauvée. Et en fait, je trouve que le groupe, il est trop basé là-dessus. C'est-à-dire qu'à la première difficulté sur chaque planète, donc on en a fait trois pour l'instant, finalement, on s'en va en disant c'est pas celle-là et on va chercher ailleurs. Alors que, clairement, il y a un terrain pour faire des aventures, pour se développer. Et je trouve ça, moi, personnellement, plus fun de jouer le terrain et les difficultés qu'on a et créer une nouvelle solution, plutôt de se casser et puis revenir la fois suivante, etc. Bon, c'est un point de vue personnel.
Je pense pas que ce soit un point de vue personnel, c'est très intéressant que tu abordes cette question. Est-ce que les autres ont le même point de vue ou est-ce que les autres ont le même ressenti à ce niveau-là, Thibaut, peut-être?
Mais moi, je suis plutôt le genre de joueur à dire, j'aime bien essayer de voir tout ce qu'il y a autour et puis me dire, c'est celui-là qui va être l'idéal. Donc, plus prospecter, faire des recherches, ce genre de choses. Et une fois qu'on a tous les éléments en main, on dit, tiens, celle-là est plus adaptée. Enfin, je veux dire, d'une façon un peu plus scientifique, en tout cas dans ce type de jeu, parce que c'est vraiment la chose qui est mise en place. C'est-à-dire que on a des scientifiques, on a ce genre de choses, donc on cherche... la planète idéale, un peu plus comme si je pars en expédition et je dis tiens, il faut que je trouve le truc où je veux vivre toute ma vie. Et moi, je me mets plutôt à la place des gens pour qui on a accepté la quête, c'est trouver leur emplacement idéal pour qu'ils aient aussi le moins de difficultés à s'adapter. Est-ce que c'est quelque chose qui doit rentrer en parallèle avec ce qu'on vit dans notre vie réelle? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est surtout ce côté-là de... Il faut trouver le meilleur emplacement et tout ça. Après, à la quête du meilleur, on trouve souvent rien.
Je sais pas, commencer une nouvelle civilisation en exterminant les indigènes, ça me semble un peu...
C'est l'église.
On n'a pas parlé. On n'a pas parlé d'exterminer.
Mais,
hein.
Non, mais si tu les mets à un endroit où ils ne sont pas souhaités, il va quand même y avoir des luttes entre les personnes qui y sont déjà et les nouveaux arrivants. Donc c'est quand même à ça que ça va arriver.
Et mais en fait on a le syndrome en fait du, c'est assez drôle parce que ça c'est, moi je trouve que ça s'explique de manière roleplay, c'est-à-dire on a le syndrome du on veut réussir notre mission, on joue vraiment les personnages qui font leur mission et en fait tous les à côté qui rentrent pas dans notre mission, eh ben on les met de côté, on dit non, et je trouve ça en fait pour le côté aventureux du, enfin c'est vraiment le mon côté joueur. Moi, enfin, je joue pour faire des aventures, pour m'amuser, pour et finalement, et ça fait 3 scénarios, on fait rien. En fait, c'est quelque part, je trouve que voilà. Après, nos personnages, ils avancent, mais en termes de jeu, on fait rien. Ouais, on fait rien. C'est très drôle.
Avant de te donner ma réponse à ça, je vais laisser Nathan peut-être s'exprimer. Parce que lui, Nathan, n'a connu que ça. Ouais. Hein, donc lui, il est arrivé au moment où je lançais cette partie de la campagne exploration libre, dans le fond. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette dynamique, justement?
Ouais, c'est intéressant, mais moi, je suis plus du genre action que...
C'est bien.
Que diplomate, en fait. Enfin, j'aime bien quand il se passe quelque chose, le suspense ou quelque chose ainsi que de parler pendant 2 heures sur un sujet qui, finalement, va nous dire, ouais, c'est bon, on va faire la première idée de départ. Mais, enfin, moi, je trouve que c'est mon point de vue, quoi. C'est...
Ah, ok. Alors, moi, je vais vous dire mon ressenti à moi. Enfin, d'abord, la façon dont je fais ce bac à sable, donc c'est un bac à sable, hein, donc vous pouvez jouer dans le bac à sable, vous pouvez jouer dans le secteur Sanson comme vous voulez. Hein. Il est fait aléatoirement. Il est fait entièrement aléatoirement. Donc, on vous a donné pour mission de trouver une planète pour le truc, mais la planète idéale, comme tu dis, Thibaut, elle n'existe peut-être pas. Peut-être qu'il n'y en a pas, tout simplement. Et qu'effectivement, votre quête, elle est difficile à réaliser pour ça, et que donc, il va falloir faire des compromis pour arriver à trouver quelque chose qui ne soit pas nécessairement idéal, mais au moins satisfaisant. Hein? Et effectivement, si vous continuez comme ça à passer à côté des quelques opportunités qui se présentent, même si c'est parfois difficile, je suis d'accord, de trouver, ça semble difficile de trouver une solution, ben je pense que vous passez à côté de l'histoire et de l'aventure. Ah non, moi je ne suis pas, un MJ dirigiste, donc je ne veux pas être un MJ dirigiste sur cette campagne-ci, ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'effectivement, vous n'embrayez pas nécessairement sur les petites aventures d'à côté, effectivement, on va dire les quêtes mineures qui se présentent à vous. Donc vous avez cette quête, bien sûr, majeure, mais vous n'êtes pas obligé de vous focaliser entièrement là-dessus. Vous pouvez aussi faire des quêtes mineures, vous pouvez trouver des planètes qui ne sont pas idéales, mais qui permettront au moins aux gornes de... de trouver un endroit où s'établir de façon temporaire. Donc pour moi, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de solution. C'est vous qui allez déterminer cette solution. Alors ça, c'est un a priori, je le veux comme ça. Hein. C'est pas, après, si ça dérange, si cette façon de maîtriser dérange et n'est pas satisfaisante pour la plupart de la table, je peux repartir sur du scénario classique. Ça ne me dérange pas non plus. C'est juste que, bon, voilà, je voulais changer un petit peu, mais c'est, voilà.
Mais en fait, ce que je pense que le groupe ressent, c'est-à-dire qu'il y a tellement de monde qui veut en fait avoir une carte vraiment complète de tout ce qui, les aventures qu'ils peuvent avoir avant de se décider, je vais prendre celle-là ou celle-là ou celle-là. Et en fait, on va passer je sais pas combien de temps avant d'y arriver, pendant lequel on n'aura pas fait finalement grand-chose. Oui, si on continue comme ça. Quoi.
Oui, j'espère qu'on n'en arrivera pas là.
Après qu'on sache exactement ce qu'on peut. Les autorisations qu'on a de l'Empire.
Mais on peut tout faire en fait dans ce jeu, on s'en fout. Ce jeu-là, il est fait pour ça. C'est le jeu de la débrouille.
L'Église quand tu
vois,
a parlé.
Quand tu vois comment nos personnages jouent, c'est le jeu de la débrouille.
Vous avez eu un ordre de réquisition
si t'as envie d'exterminer quasiment toute la planète.
Mais sans parler d'aller là.
Oui,
après,
mais c'est que l'Empire donne carte blanche dans un territoire qui ne lui appartient pas.
À nous de créer des moyens. À nous de créer des moyens.
Des alliances ou des choses ainsi.
Enfin, pour faire un petit parallèle comme ça, quand tu lis un peu Fondation sur les premiers livres, les mecs, ils se débrouillent avec trois fois rien. Ils y vont au culot, ils bricolent des trucs, ils y vont un peu comme ça. Et c'est, franchement, quand tu vois les premiers scénarios qu'on a joués ici, mais on y allait, mais des fois, mais comme ça, et je sais pas comment on a réussi, hein. Il y a certains moments, le moment où t'es dans le temple ou, enfin, quand avec moi, c'était tendu, on savait pas ce qu'on faisait, on y allait parce qu'on devait faire quelque chose. Et c'était chouette. C'était les meilleurs moments qu'on a passé sur ces scénarios-là. En fait, finalement.
Oui, vas-y, Laurence, tu dis.
Je pense que on a besoin de pression pour agir différemment. Et donc, il faudrait absolument que le vaisseau des Gorn ait une malfonction.
Non, mais pas. C'est là où finalement je pense qu'il y a quelque chose, non. C'est que nos personnages ne sont pas impliqués directement dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'ils sont impliqués dans l'ordre et on veut trop bien réussir la mission pour s'impliquer. Et en fait c'est assez drôle parce qu'au niveau roleplay ça s'explique. Hein. En fait tu peux pas en vouloir à la table de jouer comme ça. C'est ça qui est fort. Hein,
pour être pointé, je vous en veux pas de jouer comme ça. Hein. On vous a mis une mission et vous la prenez au sérieux et c'est très très bien. Ce qu'il y a, c'est que moi, ce que je vous explique ici, c'est que l'univers ne va pas se conformer à vos désirs qu'il est créé de façon complètement random et que donc il n'est pas créé de façon à pouvoir répondre à vos désirs. Il s'agit vraiment de trouver une planète qui sera pas peut-être la planète idéale, mais ce sera celle où ce sera possible de s'installer avec le minimum d'emmerde. Voilà. Et alors peut-être que c'était celle que vous avez visitée aujourd'hui, ou peut-être que ce sera une autre. Sincèrement, moi j'ai généré dans ce secteur 28 planètes. Donc il y a environ 100 hexagones dans ce secteur. Il y a 28 planètes, vous en avez fait 3. Et dans les 28 planètes, il y en a 10 qui sont générées de façon un peu approfondie. Et une seule pour laquelle j'avais une carte, c'est celle qu'on a visitée aujourd'hui, parce que je savais que vous alliez là aujourd'hui, donc j'ai fait une carte un peu détaillée. Mais voilà, fondamentalement, je veux pas guider le truc. Alors après, à nouveau, si on patine trop, enfin, pour être tout à fait clair et franc et méta avec les joueurs, ce que je peux vous dire, c'est que au bout d'un certain nombre de jours, le monde où les Gorn vont s'installer, aura été trouvé. Si vous n'arrivez pas à le trouver au bout de ce nombre de jours, ce sera une autre expédition, parce qu'il y a d'autres expéditions qui essayent de faire la même chose que vous en même temps, dans d'autres secteurs, qui aura trouvé le monde des Gorn pour vous, enfin pour eux. Et donc, à ce moment-là, entre guillemets, on viendra vous dire, c'est bon, vous pouvez abandonner la recherche, on a trouvé ce qu'il nous fallait.
Qu'on s'occupe de la concession de pétrole, alors.
On peut faire les deux.
La planète où il y a où vous avez cette concession de pétrole n'est pas nécessairement reptile aux cornes, il y a moyen. C'est pas idéal en termes de température, etc. Mais
c'est peut-être une occasion, s'ils ont de quoi terraformer en partie la planète, d'apporter plus de bien-être aux habitants, et alors qu'ils les accueilleraient de manière plus positive.
Voilà.
C'est un des terrains qu'on pouvait faire.
Moi, ouais. j'ai pas de solution idéale. C'est ce que je voulais vous dire aussi dans ce débrief. J'ai pas de solution idéale pour cette campagne. C'est vraiment vous qui allez développer et créer l'histoire au fur et à mesure que vous vous baladez dans le secteur Sanson. Et je pense qu'on va, sur ce mot de la fin, on va arrêter l'enregistrement de ce podcast et remercier tous les participants autour de la table et les auditeurs de nous avoir écoutés. Donc à la prochaine.
À la prochaine.
Au revoir.